Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Pour cette 5e édition du millefeuille, je vous emmène à Harlem, mais aussi à Paris, New York et Saint-Paul-de-Vence pour aller à la rencontre d'un grand romancier américain, essayiste remarquable, figure du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, dont on fêtera le 100e anniversaire de sa naissance cette année, à savoir James Baldwin, avec son roman « L'homme qui meurt » paru en 1968.
Le plus grave, c'est que ce n'est pas un métier qu'on prend très au sérieux chez nous, n'est-ce pas? Si on veut être un écrivain en étant noir, on risque de devenir une espèce de clown. Parce qu'on n'a jamais pensé que, vraiment, qu'un noir peut devenir écrivain. Enfin, je parle de ma génération, n'est-ce pas? Il y avait, mais ça n'existe pas essentiellement dans l'esprit de mes compatriotes. Vous voyez ce que je veux dire?
Yes.
Donc, il est fallu pour moi que je décide tout de suite que je ne suis pas folkloriste. Je ne suis pas né pour vous amuser. Je suis un écrivain comme un autre écrivain.
C'était James Baldwin au cours d'un entretien réalisé en 1972 en Suisse, suite à la parution de son ouvrage « Chassé de la lumière », un entretien que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube. Et sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer avec le début du roman de l'homme qui meurt. Cette crise cardiaque fut étrange. La peur est une chose étrange. Je savais bien que j'avais trop travaillé. J'avais déjà été prévenu. Mais j'ai toujours trop travaillé. Je sortis de scène à la fin du deuxième acte. J'étais brûlant et j'avais du mal à reprendre mon souffle. Mais je savais que j'étais fatigué. J'allais à ma loge, me versais à boire et m'allongeais confortablement, les pieds relevés. Je me sentis mieux. Je savais que j'avais à peu près 25 minutes devant moi avant de retourner en scène. Une violente envie de vomir me saisit et j'allais dans la salle de bain, mais rien n'arriva. Alors je commençais à avoir un peu peur, oui peur, de m'asseoir ou de me rallonger. Je remplis de nouveau mon verre et sortis de ma loge pour aller me poster dans les coulisses. J'avais commencé à transpirer et j'étais glacée. La nausée revint. J'avais l'impression que mon ventre allait se soulever jusqu'au sommet de mon crâne. Le régisseur me regarda juste au moment où j'entendis la réplique précédant mon entrée en scène. J'arrivais sur le plateau avec son visage en moi. Il m'avait paru livide, horrifié, désincarné, dans la lumière blafarde qui éclairait l'arrière de la scène. Je me demandais ce qui avait pu l'effrayer, puis me rendit compte que j'éprouvais des difficultés à trouver ma place sur le plateau et à entendre les répliques. Barbara dit son texte. Je le connaissais, ce texte. Je savais ce qu'elle disait, mais je ne savais pas quel rapport établir entre ces phrases, et il s'écoula une éternité avant que je pusse donner la réplique. Puis je me mis à avoir peur. Et alors, naturellement, le cauchemar fut créé et organisé, et je compris que j'étais au milieu d'un cauchemar. Je me déplaçais sur ce plateau, je ne sais comment, traînant mon texte, le hissant des profondeurs cryptiques de ma mémoire, priant pour que mes gestes fussent corrects, car j'avais perdu le sens de la distance, la perception des profondeurs, et je sentis que je m'enfonçais de plus en plus dans un vide glacé. « Veux-tu que nous fassions baisser le rideau ?» chuchota Barbara. « Non » criai-je, ou chuchotai-je en réponse. À un certain moment de cette scène, je devais rire, et quand je ris, je me mis à tousser. J'avais peur que cette toux ne s'arrête jamais. Un liquide au goût affreux montait, que je dus avaler, et puis soudain ce fut fini. tout redevint aussi clair, aussi calme, aussi lumineux que le jour. Je donnai encore quelques répliques et je me dis « Bon Dieu, c'est fini, je vais bien maintenant ». Et c'est alors que quelque chose me frappa à la poitrine, me traversa la poitrine jusqu'à la colonne vertébrale et me jeta presque à terre. Je ne pouvais plus reprendre mon souffle pour dire mon texte. Ils escamotèrent le passage, je savais que nous approchions de la fin de l'acte. Je priais, demandant de tenir jusqu'à la fin. Je fis encore quelques gestes, je donnai encore quelques phrases. J'entendis l'avant-dernière réplique, celle de Barbara. « Ainsi vous êtes rentré, vous allez rester. » Et je répondis « Je le pense, chère madame, mais je ne veux pas vous chagriner. J'espère ne pas être rentré pour mourir. » Cette réplique, dite à ce moment précis, me parut terriblement drôle. Le rideau tomba, j'entendis le fracas des applaudissements, semblable au rugissement d'une cataracte, très loin de moi, et pour la première fois je perçus le bruit de mon propre souffle. Il était plus sonore que la cataracte. Je fis un pas et tombai à genoux. J'étais à terre, on m'emporta. Sur mon étagère, L'homme qui meurt et les autres livres de James Baldwin se trouvent entre ceux de Paul Auster et d'Alessandro Barrico. Est-ce que James Baldwin aurait aimé ce compagnonnage d'étagère ? Aux côtés de Paul Auster, il y aurait vu une reconnaissance de son statut d'écrivain américain, et pour ce qui est d'Alessandro Barrico, avec son roman Novecento, il aurait sans doute eu de la tendresse pour l'histoire de ce pianiste noir né sur un bateau et qui vit et joue du piano toujours sur l'Atlantique entre deux terres. Mais s'il avait dû choisir les auteurs à côté desquels il aurait aimé être, sûrement il aurait cité son ami romancier William Styron, Richard Wright pour cette proximité de parcours, frère d'exil qu'il a rencontré tôt dans sa vie, mais aussi la romancière amie Toni Morrison, qui disait de lui « Tu m'as donné un langage où habiter, et ce cadeau était si parfait que je croyais l'avoir inventé. J'ai tant pensé à tes pensées, celles que tu as dites, que tu as écrites, que j'ai cru que cette vision claire, si claire, était la mienne en propre. » Revenons à l'auteur, James Baldwin. Comme je vous le disais, nous fêterons cette année le 100e anniversaire de sa naissance, car il est né très exactement le 2 août 1924 à Harlem. Et si en 2016, le cinéaste Raoul Peck a remis James Baldwin dans la lumière avec son documentaire « I am not your Negro » tiré du manuscrit de James Baldwin, suivi par Barry Jenkins, cinéaste qui en 2018 a adapté à l'écran ce roman « Si Beale Street pouvait parler », j'espère que cette année anniversaire va permettre également de parler à nouveau de cet écrivain humaniste. Mais revenons sur le parcours de cet auteur. Né dans une famille pauvre, petit-fils d'esclave, il est l'aîné d'une famille de 9 enfants élevés dans la religion. Son père adoptif est un pasteur pentecôtiste, pour le moins rigide, et la Bible sera bien le seul livre présent à la maison pour le petit Jimmy. À 14 ans d'ailleurs, il se tourne lui aussi vers la religion et devient prêcheur. « C'était mon héritage », dira-t-il plus tard. Il a des talents incontestables d'orateur, mais il décide de tourner le dos à l'église à 16 ans. Cette période lui inspirera d'ailleurs son premier roman, « La conversion », paru en 1953, roman qui le fit connaître aux États-Unis. À propos de religion, il écrira plus tard dans son essai « La prochaine fois le feu » « Si le concept de Dieu a une validité ou une utilité, ce ne peut être que pour nous rendre plus grands, plus libres et plus aimants. Si Dieu ne peut pas faire cela, il est temps que nous nous débarrassions de lui. » Dès la fin de sa scolarité, à 17 ans, il quitte sa famille, enchaîne les petits boulots et commence à écrire des nouvelles et des critiques de livres. Il s'installe à New York et côtoie des artistes comme le peintre américain Beaufort Delaunay. En 1948, à 24 ans, il traverse l'Atlantique avec $40 en poche pour s'installer à Paris, un peu par hasard. L'essentiel pour lui était de quitter les États-Unis, de trouver un pays où il lui serait possible de tordre le cou au destin que l'Amérique raciste de l'après-guerre pouvait lui réserver. Il dira d'ailleurs « Les Français m'ont donné ce que je ne pouvais pas avoir en Amérique, l'impression que si je suis capable de le faire, je suis autorisé à le faire. » Et il ajoutera « C'est quand j'arrive à Paris que je me suis senti pour la première fois américain. Aux États-Unis, je n'étais qu'un sale nègre. » En 1955 paraît son premier essai, Chronique d'un pays natal. En 1956, c'est son deuxième roman qui est édité, La chambre de Giovanni, où il évoque l'homosexualité d'un jeune Américain dans les années 50 à Paris, histoire d'amour où se joue la peur de s'engager et la peur d'être jugé. Car ce n'est pas seulement la cause des Noirs qu'il défendra, c'est aussi celle des homosexuels, avec la nuance et la finesse d'esprit qui le caractérisaient. Suivront ensuite des œuvres majeures comme « Si Beale Street pouvait parler »,« Harlem Quartet » et son essai « La prochaine fois le feu ». On lui doit aussi des pièces de théâtre, notamment « Le coin des amens » qui a été traduit par Marguerite Yourcenar. En 1957, il reviendra aux États-Unis pour s'engager dans le mouvement des droits civiques aux côtés de Martin Luther King et de Malcolm X. En 1970, de retour en France, il s'installera à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à son décès en 1987. Outre le défenseur des droits qu'il était, il faudra aussi garder en mémoire la place qui lui est due comme grand romancier de la condition humaine. Garder en mémoire aussi ce que Marlon Brando disait de lui, « Il m'a appris à regarder à l'intérieur des gens, à comprendre leurs motifs et leurs identités. » I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom. I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got Avec le roman « L'homme qui meurt », nous entrons dans la vie de Leo Prudhammer, acteur noir américain renommé et confronté à une crise cardiaque. Alors qu'il se trouve à l'hôpital entre la vie et la mort, nous revisitons son passé, son enfance pauvre à Harlem, l'admiration pour son frère aîné, Caleb, la peur de l'homme blanc, et celle plus grande encore de se retrouver dans la rue et d'y croiser la police, d'être exposé à un contrôle inopiné qui pourra vous mener à un tabassage, à la prison ou pire encore. On voit comment naissent la peur et la haine pour le jeune Léo. Au fil du récit, nous suivons le parcours du comédien, ses débuts avec ses interrogations sur sa place dans la société, son désir de dépasser celle qui lui a été assignée seulement à cause de la couleur de sa peau, ses amours, et comment, dans cette Amérique corsetée, vivre en tant que noir des relations amoureuses avec un homme ou avec une femme blanche. C'est un roman long, certes, mais qui dépeint tendrement la fraternité, l'amitié et les amours de son héros au sein de cette société américaine raciste, société déchirée par la haine et la peur. Comment j'ai découvert ce livre ? Eh bien, ce roman, si je l'ai choisi, c'est que c'est le premier que j'ai lu de James Baldwin, après avoir découvert le documentaire de Raoul Peck, réalisateur haïtien, I Am Not Your Negro, documentaire inspiré d'un manuscrit de Baldwin. Film nommé aux Oscars et qui a remporté le César du meilleur film documentaire en 2018. Il aborde la question noire aux États-Unis, de l'esclavage jusqu'à la lutte des Afro-Américains pour l'égalité des droits. Tout comme c'est le faire James Baldwin dans ses romans, le film vous place dans la condition d'un noir aux États-Unis, un noir qui doit faire face à l'humiliation, à l'injustice, à la peur et à la colère. Le titre résonne avec le propos de James Baldwin qui disait « Je ne suis pas un nègre ». Je suis un homme. Retrouvons à présent un deuxième extrait du roman « Un homme qui meurt » au moment où Léo Prudhammer, acteur débutant, se retrouve au poste de police pour avoir été vu sortant de l'appartement de son amie Madeleine, comédienne comme lui, mais blanche. Quelqu'un que je n'avais encore jamais vu entra alors plein d'assurance, jovial, rougeaud. Il m'appela par mon nom et me donna une tape dans le dos. « Alors, vous êtes acteur. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit tout de suite, Léo ? Vous n'allez pas nous en vouloir pour une petite méprise, Léo. L'erreur est humaine, n'est-ce pas ? » Je le fixais d'un œil rond, sans rien dire. Je ne savais vraiment plus quoi dire. Mais c'est pénible la vie d'acteur, très pénible, je suis sûr que vous le savez, Léo. Vous m'avez l'air d'un garçon très intelligent. » Il gloussa de nouveau et me poussa du coude. « Mais il y a de bons moments aussi, Léo, hein, entre hommes, les plus belles poules. Je parie que les femmes sont folles de vous. C'est pas vrai, Léo ?» Il se pencha vers moi d'un air confidentiel et m'adressa un clin d'œil. « Vous connaissez le dicton, gros homme, petit outil, petit homme, tout est outil. Ah » Il me pinça l'épaule et me fit mal. « Oh, vous ne voulez pas le dire, mais je le vois dans vos yeux. Vous en avez déjà vu des vertes et des pas mûres, malgré votre jeune âge. Quel âge avez-vous, Léo ?» Il me regarda. Je le regardais. Je ne dis rien. Il y eut un silence étouffé, répugnant. « Bon, j'essaie de deviner, c'est difficile à dire avec vous autres. Voyons, 17, 22 ?» Il était très, très habile, et je crois que j'aurais probablement fait un geste ou un autre si j'avais été capable de remuer la tête. Mais je ne pouvais que le fixer d'un œil effaré, muet, hypnotisé. Et j'étais maintenant vraiment effrayée. Plus terriblement, plus profondément encore que par le passé. Quand il comprit que je n'allais pas répondre, il dit « Léo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'erreur est humaine. Nous sommes tous des êtres humains, nous commettons tous des erreurs. C'est pour cela qu'on a inventé les gommes à effacer. Il m'observait étroitement derrière le voile de la fumée de son cigare, mais il était plein d'assurance et de jovialité, et il continuait de sourire. « Cela m'ennuie de le dire ainsi, Léo, mais les acteurs ont tendance, eux, enfin, ils ont une moralité assez relâchée. Je ne dis pas cela pour vous. Vous m'avez l'air d'un brave garçon, très au-dessus de la moyenne. Je suis sûre que votre mère est fière de vous. Où habite-t-elle, votre mère, Léo ?»« À Johannesburg, dis-je. C'est une missionnaire. » Il ne savait que dire. Et ce n'est pas mon visage qui pouvait l'aider. Je le vis qui cherchait quelque part une carte de géographie, mais il lui était très difficile de m'en demander une. Ah oui. En tout cas, je suis sûre qu'elle ne voudrait pas que vous ayez de mauvaises fréquentations, Léo. Ça m'ennuie de vous dire ça, mais beaucoup de vos amis, voyez-vous, constituent de fort mauvaises fréquentations pour un beau garçon comme vous. De très mauvaises fréquentations. Et c'est pour cela que nous avons commis cette erreur. Ce n'est pas vous que nous cherchions, mais nous ne pensions pas trouver un homme de couleur dans cette maison. Mais je suis assez vieux pour être votre père, Léo, alors laissez-moi vous donner un conseil. » Il marqua un temps d'arrêt. Le métier d'acteur a brisé le cœur de mon frère. C'est un fait. Il disait toujours. Il me frappa du bout de son index et cela me fit mal. Je savais qu'il voulait que cela fît mal. Je regrette de ne pas être resté avec les miens. Voilà ce qu'il disait toujours. Il se redressa, l'air triomphant. Vous voyez où je veux en venir, Léo? Vous allez rester avec les gens de votre race et vous serez alors certain de ne pas vous attirer d'ennui.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
C'est avec le récit autobiographique de Richard Wright, Black Boy, paru en 1945, que résonne pour moi ce roman, où l'on retrouve le trio infernal qui a vu grandir ces deux auteurs, le racisme, la misère et le poids considérable de la religion, église pentecôtiste pour l'un et adventiste pour l'autre. Je vous propose donc un extrait de Black Boy, œuvre majeure de la littérature américaine, au moment où le jeune Richard, qui vend depuis peu des journaux pour gagner un peu d'argent et assurer sa scolarité, est interpellé par un adulte, ami de sa famille, à propos des journaux en question. Qu'est-ce qui n'allait pas encore ? Les journaux étaient très bien, du moins c'est ce qu'il me semblait. « Tu as vu ça ?» demanda l'homme en désignant une caricature aux couleurs criardes. « Non, monsieur, répondis-je, je ne lis pas le journal, je ne lis que le supplément. Eh bien, regarde ça, prends ton temps et dis-moi ce que tu en penses, » fit-il. C'était le numéro de la semaine écoulée. La caricature représentait un énorme nègre, au visage gras et luisant de sueur, aux lèvres épaisses, au nez épaté, aux dents en or, assis sur un fauteuil tournant devant un immense bureau magnifiquement astiqué. Confortablement installé dans son fauteuil, il avait posé sur le bureau ses pieds chaussés de souliers d'un jaune éclatant. Ses lèvres épaisses hébergeaient un gros cigare noir terminé par un bon pouce de cendre blanche. Sur la cravate à pois rouges, une extravagante épingle en fer à cheval étincelait de tous ses feux. L'homme portait des bretelles rouges, sa chemise était de soie rayée et d'énormes bagues de diamants ornaient ses gros doigts noirs. Une chaîne d'or ceignait son ventre et de son gousset pendait une patte de lapin porte-bonheur. Par terre, à côté du bureau, se trouvait un crachoir débordant de mucosité. Accrochée au mur, une pancarte clamait « La Maison Blanche ». Sous la pancarte se trouvait le portrait d'Abraham Lincoln, les traits déformés pour le faire ressembler à un gangster. Mes yeux se portèrent sur le haut du dessin et je lus. Le seul rêve du nègre est de devenir président des États-Unis et de coucher avec des blanches. Américain. Permettrez-vous ce sacrilège dans notre beau pays ? Organisons-nous et sauvons la femme blanche de la dégradation. J'écarquillais des yeux effarés, m'efforçant de saisir l'idée et la légende de l'illustration, me demandant pourquoi tout cela me semblait si étrange et pourtant si familier. Tu sais ce que ça veut dire ? Me demanda l'homme. Mince alors ! Non, je sais pas, avouai-je. « Eh bien, le journal que tu vends prêche les doctrines du Ku Klux Klan. »« Oh non !» m'exclamai-je. « Tu l'as entre les mains, mon petit, » fit-il. « Je lis le supplément, mais jamais le journal, » dis-je vaguement, fortement ébranlé par ce que je venais d'apprendre. Une citation de l'auteur. La question pour moi n'est pas de savoir s'il y a, oui ou non, un espoir pour le noir dans une société à majorité blanche. La question est de savoir si, oui ou non, cette société est capable de se libérer de ces termes obsolètes et de devenir, dans les faits, joyeusement aveugle à la couleur de la peau. Une forêt primitive découverte en Chine. Dans le deuxième podcast du Millefeuille Revisité, je vous parlais des forêts primaires, avec le projet Francis Allais de faire renaître une forêt primaire au cœur de l'Europe. Eh bien, savez-vous qu'en Chine, au sud, plus précisément dans la région du Guangxi, pas très loin du Vietnam, une forêt primitive intacte a été découverte en mai 2023 par des scientifiques du service géologique chinois. Alors me direz-vous, comment se fait-il que cette forêt primaire soit restée méconnue jusqu'à cette date ? Eh bien, tout simplement car elle se trouve tout au fond d'un gouffre, une grotte de 200 mètres de profondeur et qui mesure 300 mètres de long sur 150 de large. Avant d'accéder au fond de ce gouffre, les spécialistes se sont heurtés à une forêt très dense et leur avancée a nécessité l'emploi de drones. Mais malgré le peu de lumière, cette forêt recèle une nature vierge riche de biodiversité et les experts s'attendent à de belles découvertes comme leur première trouvaille, des bambous aux tiges carrées et pourvues d'épines ainsi que des sortes de figues inconnues. Sans parler de la diversité animale présente, mais encore inexplorée. Alors, pas besoin de faire des plans sur Mars, il nous reste encore tant à découvrir sur la planète bleue. Merci pour votre écoute et rendez-vous en mars pour le prochain Millefeuille Revisité, toujours sur l'autre radio.